C'était donc il y a 70 ans. Nous avions aux Pays-Bas les plus grandes inondations qui soient, nous l'entendrons. Depuis lors, chez nous, en Australie et ailleurs, il y a évidemment là aussi des choses qui changent. Alors, quid à propos de l'aménagement maritime et fluvial ? Nous en parlons ce soir avec Jean-Marc Béné.
La première, le fin mot, Eddie Kekkelbergs.
C'est un véritable déluge auquel est confrontée la ville de Sydney, où dans certains quartiers totalement inondés, on se déplace désormais en bateau.
De nombreuses routes à Sydney, sous l'effet de ces précipitations qui vont continuer jusque dans la nuit, sont inondées. Je le répète, n'essayez pas de rouler à travers une route inondée. Ces crues subites surprennent de nombreux automobilistes et elles peuvent être très dangereuses.
De fait, ces inondations ont tué 20 personnes ces derniers jours. La plupart ont été retrouvées dans leur voiture ou à proximité de celle-ci. C'est le cas par exemple d'une mère et de son fils dont les corps ont été retrouvés aujourd'hui dans une banlieue de l'ouest de Sydney. Les services de météorologie prévoient une accalmie à partir de demain, mais ils appellent également à rester vigilants. Les rivières, tout comme les sols déjà gorgés d'eau, pourraient de nouveau sortir de leur lit au cours des prochains jours.
Il y a eu des trombes d'eau, sur le coup de 2h30, là. Vraiment un gros orage avec le ciel qui s'est ouvert. C'est vraiment la première fois qu'il y a autant d'eau. Vous pouvez voir derrière, j'ai des prairies qui sont complètement sous eau aussi.
On a eu une énorme drache, on peut appeler ça comme ça. Et on a eu quasiment un mètre d'eau ici dans la rue qui est dévalée des deux côtés. Donc ça continue d'ailleurs à dévaler de l'arrière des champs. Le bassin d'orage n'a pas tenu le coup, donc ça s'est rompu et c'est passé. Voilà, c'est arrivé chez nous. Ça monte chaque année de plus en plus fort, de toute façon.
Une digue a cédé par suite du mauvais temps à la limite nord d'Amsterdam et de Zaandam. Par la brèche, large de 70 mètres, l'eau s'engouffre dans les polders sans contrebas. Tout le secteur de Tuindorp-Ostzaan est envahi. 11 000 résidents sont surpris par l'inondation qui s'élève à plus de 3 mètres. Il gèle à moins 7. L'évacuation est d'autant plus pénible. Par le froid glacial, c'est l'exode forcé dans l'eau qui monte inexorablement. Pataugeant dans les torrents de boue jusqu'aux hanches, les sauveteurs se dévouent sans compter. En dernière minute, cet enfant a pu être sauvé par des policiers. Par miracle, on n'aura qu'un mort à déplorer. 4 millions de mètres cubes se sont répandus dans la cité-jardin du polder. Pour les 11 000 sinistrés du Tuindorp, le sauve-qui-peut dans la neige trouve un réconfort dans l'élan immédiat de solidarité qui les entoure. Initiatives personnelles et officielles rivalisent d'efficacité. Les centres d'accueil allaient pouvoir trouver des hôtes bénévoles pour tous les sans-abri. Les dégâts ne peuvent encore être évalués. La reine Juliana s'est rendue sur place. La brèche sera colmatée en un temps record. Mais depuis les désastreuses inondations de 1953, ceci est la plus grande défaite des Pays-Bas dans leur lutte incessante contre la mer.
En Hollande, les villages inondés commencent à émerger. Les rues sont parfois creusées de plus d'un mètre et les maisons sortent de l'inondation comme d'un violent bombardement. Dans l'île de Texel, les évacués se sont mis à l'œuvre, car la Hollande, pendant des mois, ne sera qu'un chantier de déblaiement. La reine Juliana a visité les régions sinistrées, apportant partout le réconfort de sa présence et la promesse de l'aide générale, car tout le pays participe à la reconquête du sol perdu. Là où les maisons ont tenu bon, les familles en reprennent possession, pièce par pièce. Après la lutte contre l'eau, la lutte contre la boue. Mais la boue est vaincue d'avance. Et c'est la reprise de la vie qu'annonce, dans le village retrouvé, la première tournée du laitier.
La première.
Le fin mot.
Bonsoir Jean-Marc Béné.
Bonsoir.
On va évidemment parler de ces érosions de littoraux, de ces montées des eaux. Surtout qu'il y a 70 ans, là, jour pour jour, on en était aux Pays-Bas à se retrouver véritablement confronté à cela depuis lors des digues, mais qui ne suffiront plus. On peut dire que c'est un tout grand défi qui nous attend là dans les années qui viennent.
Ah oui, tout à fait. Oui, je pense que ce sont les enjeux du 21e siècle. Oui.
Ce dérèglement climatique accélère l'élévation du niveau des mers, vous nous dites, en particulier dans l'océan Indien.
Oui, dans l'océan Indien, mais en fait, dans tous les océans, dans toutes les mers du globe. On m'avait demandé à une époque de faire un article pour l'océan Indien, parce qu'il se trouve que j'ai beaucoup travaillé, mais ce n'est pas seulement l'océan Indien. Dans l'océan Indien aussi, il y a des îles basses, par exemple les Maldives, donc c'est peut-être plus grave que pour d'autres zones du monde, mais c'est aussi grave pour les îles du Pacifique, hein, que c'est, je pense au Kiribati, au Tuvalu, qui sont aussi très basses sur l'eau, même la Polynésie française, hein, les atolls des Tuamotu, même les Antilles dans l'Atlantique, la mer des Caraïbes, donc c'est un peu partout dans le monde que la mer monte. Bon, le réchauffement n'est pas identique sur toute la planète, mais c'est une moyenne quand même. On ne peut pas regarder zone par zone en détail, mais des moyennes montrent que ça monte et que ça s'est accéléré ces dernières années.
La question peut paraître peut-être un peu enfantine, mais elle mérite d'être posée. Pourquoi le niveau des mers s'élève-t-il ?
Donc c'est pas nouveau, hein. il y a 20 000 ans, donc c'était à la fin de la dernière époque glaciaire, la mer était 120 mètres plus bas que maintenant, parce qu'il y avait des glaciers au pôle, et en particulier des glaciers qui recouvraient toute la partie Scandinavie et le Canada. Ces glaciers ont fondu. Pourquoi ? Parce que l'axe de la Terre change avec une périodicité, fait une période de l'ordre de 26 000 ans. C'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes, où sont aussi les cycles de Milankovic, qui est un astrologue et mathématicien serbe, qui a expliqué ça dans les années 1940-41. Donc c'est normal, ça c'est un cycle naturel lié aux astres. Bon, ça posait pas de problème à l'époque, il y a 20 000 ans, parce que les hommes préhistoriques, ils s'étaient pas fixés sur les littoraux, donc ils pouvaient reculer au fur et à mesure que la mer avançait. Ils vivaient soit dans des grottes, soit dans des huttes facilement démontables. Donc pas de problème pour les hommes préhistoriques. Ensuite, au néolithique, les hommes ont commencé à construire sur les littoraux. Ça a commencé par des mégalithes. En France, en Bretagne, on a le cromlech d'Erlanique. Il y a des allées couvertes dans le Finistère Nord. Et ces mégalithes, maintenant, ceux qui étaient sur les littoraux, commencent à être submergés, en particulier à marée haute. Et puis plus tard, à l'Antiquité, donc il y a, mettons, entre 3000 ans avant Jésus-Christ et environ 500 ans après, au moment de la chute de l'Empire romain, il y a vraiment des villes portuaires qui ont été construites pour favoriser et développer les échanges commerciaux entre les différents peuples. Et depuis, donc ça fait maintenant 2000 ans, certains de ces ports et villes portuaires sont noyés, sont submergés, parce que la mer a continué de monter, alors pas beaucoup depuis l'époque romaine, elle est montée à peu près d'un mètre, mais il y a eu aussi des séismes, des raz-de-marée, qui fait que certaines villes se sont englouties. On a en particulier une célèbre en Égypte, Tunis et Héraclion, il y a aussi Baïa en Italie, enfin, ce sont des villes romaines qui ont été submergées. Mais bon, tout ça, c'était presque naturel, je dirais. Par contre, depuis l'invention de la machine à vapeur, il y a maintenant, c'était à la fin du XVIIIe siècle, donc ça fait un peu plus de deux siècles, donc c'était James Watt qui l'a inventé. Et cette machine à vapeur, elle marchait avec du charbon à l'époque, elle s'est beaucoup développée, c'était ce qu'on appelait la révolution industrielle, pour faire tourner des usines, mais faire avancer également des locomotives, des bateaux, enfin tout marchait au charbon à l'époque. Et là, il y a eu beaucoup de dégagement donc de CO2 dans l'atmosphère, et là, ça a tout accéléré. Et au 19e et 20e siècle, le charbon, il n'a pas été remplacé, mais il était en d'autres combustibles fossiles, comme les hydrocarbures, et puis aussi le gaz. Et tout ça, ce sont ce qu'on appelle donc des énergies fossiles, qui dégage du CO2 dans l'atmosphère. On a aussi le méthane, qui est un gaz à effet de serre, mais qui provient plus de l'élevage et des rizières qui se sont beaucoup développées aussi en Asie depuis environ un siècle. Donc tout ce gaz à effet de serre fait que la chaleur du soleil, en fait, elle est prise comme un couvercle de cocotte minute, elle ne peut pas repartir aussi facilement qu'avant. La Terre ne réfléchit pas autant qu'avant le rayonnement solaire. Et tout ça, ça augmente nettement les températures de l'air, mais également de l'eau, et ce qui fait que ça fait monter les océans, ce qu'on appelle l'expansion, parce que l'eau, en chauffant, en étant plus chaude, elle se dilate, et en plus, elle devient plus acide. Et c'est ça qui fait que, depuis ces dernières années, ça s'est nettement accéléré. Actuellement, c'est de l'ordre de 4 mm par an, ce qui est 10 fois plus qu'auparavant. Quoi.
Si on devait parler de prospective et de perspective d'élévation, par exemple, pour le mi-parcours du siècle ou la fin du siècle.
Alors là, il y a des graphiques qui sont sortis. Vous connaissez le GIEC, hein, qui sort des rapports tous les 3 ou 4 ans en moyenne. Le dernier qui a été publié, c'était en août 2021. Il y a un graphique qui est très parlant, qui montre que depuis les années 70, la mer s'est élevée de 20 cm environ, 20 cm en 50 ans. Mais que d'ici 2050, donc dans 30 ans à peine, elle va encore monter de 30 cm de plus. Donc au total, ça fera 50 cm depuis les années 70. Et ça, on en est sûr, même si on a arrêté tout le CO2 maintenant dans l'atmosphère, on en est certain, à plus ou moins 5 ou 10 cm près, la mer, elle sera montée depuis les années 70 de 50 cm. Et ça, c'est la faute de l'homme. Ce ne sont pas les cycles astronomiques. Pour 2050, on connaît à peu près ce niveau d'élévation, de façon certaine. Par contre, pour 2100, il y a encore une grosse incertitude. Est-ce que ça sera plus 1 mètre ou plus même 2 mètres, certains le disent. Et pourquoi il y a une incertitude? Parce qu'en fait, ça va dépendre de ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va continuer à rejeter du CO2 dans l'atmosphère d'ici 2100 ou est-ce qu'on va complètement arrêter? Ce serait difficile, mais au moins ralentir, en rejeter moins. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut faire des scénarios. C'est ce que fait le GIEC et il dit, bon, ben, selon le scénario de faible émission ou d'émission moyenne ou de forte émission, la mer pourrait monter de 0,32 à 0,62 cm, etc., dans le scénario faible, de 0,44 à 0,76 dans un scénario intermédiaire, et de 0,63 à 1 mètre, même dans un scénario très élevé. Mais le GIEC dit aussi qu'il y a une grosse incertitude au sujet de la fonte des gaz d'épaule, et qu'une élévation du niveau moyen de la mer au-delà de la fourchette approchant 2 mètres d'ici 2100, et même 5 mètres 2150-2200, n'est pas à exclure dans le cadre d'un scénario très élevé, même si c'est une fiabilité faible, mais elle n'est pas à exclure, en raison de la grande incertitude qui entoure les changements de la fonte de la calotte glaciaire.
Nos villes et nos ports, pas plus qu'effectivement ceux que vous évoquiez tout à l'heure de l'époque romaine, mais nos villes et nos ports actuels ne sont pas résilients à ce type d'agression par la montée des eaux.
Effectivement, ça va être un gros problème qu'il va falloir gérer là, dans les décennies à venir, parce que les villes, les ports et même les littoraux, ils vont être impactés par, mettons, une montée moyenne de niveau de la mer de 1 mètre. C'est très, très important. C'est beaucoup. Là, il va y avoir des littoraux qui vont être submergés. Je pense, par exemple, à des pistes d'aéroports qui ont été construites dans des zones basses. Enfin, je pense aux îles. On a remblayé des mangroves ou des lagons pour faire des pistes d'aéroports. C'est vrai, par exemple, en Polynésie. C'est vrai aussi dans l'océan Indien, par exemple, aux Seychelles. Mais c'est vrai, même plus près de chez nous, en Méditerranée, en France, l'aéroport de Nice, il est sur une plateforme qui est assez basse. Celui de Toulon aussi. Donc, 1 mètre de plus de niveau de la mer, ça va impacter les aéroports. Mais ça va aussi impacter les ports. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si la mer monte d'un mètre, en fait, il va falloir surélever les digues de 2 mètres. Parce que comme il y aura une plus grande profondeur d'eau devant les ouvrages portuaires, la digue ne suffira plus. Si on met 1 mètre seulement de surélévation, ça ne permettra pas de limiter les franchissements, parce que la houle aura plus d'énergie, parce que la houle, elle déferle, alors c'est un peu technique, mais dans 0,78 fois la profondeur d'eau. Puisque la profondeur d'eau sera plus grande devant les digues des ports, et ben la houle sera plus grande, donc elle aura plus d'énergie. Et si on se limite l'élévation à 1 mètre, il y aura quand même des franchissements. Donc en fait, si la mer monte d'un mètre, il faut surélever les digues de 2 mètres. Et c'est pareil pour les waterfronts, hein, les fronts de mer, qui sont protégés des fois par des petites murettes, il va falloir les surélever.
Dans la mesure où, évidemment, on a bien compris qu'une des façons radicales d'intervenir, c'est d'arrêter toute émission de CO2, mais si ce n'est pas le cas, est-ce que l'on peut ralentir cette élévation du niveau marin ?
Même si on arrêtait tout, ça continuerait de monter encore. Mais comment faire pour ralentir ? En fait, la transition énergétique, elle retrouve tout son sens ici. C'est-à-dire qu'il faut abandonner les véhicules thermiques. Les voitures électriques, moi j'avoue que ce serait une bonne solution, mais je ne sais pas si on est prêt, parce que est-ce qu'on aura suffisamment d'énergie électrique dans tous les pays pour avoir que des véhicules électriques ? Je pense aussi aux îles. Les îles, ce n'est pas évident, parce que les îles, il n'y a pas de centrale nucléaire, les petites îles. Toute l'énergie dans les petites îles, c'est forcément des hydrocarbures, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire, et on ne va pas mettre des centrales nucléaires dans chaque petite île, que ce soit dans le Pacifique ou dans l'océan Indien. J'avoue que je ne crois pas à l'abandon complet des véhicules thermiques à court terme. Mais sinon, c'est ça qu'il faudrait faire, ce serait arrêter les véhicules thermiques et passer, par exemple, pour l'énergie, augmenter encore le solaire, augmenter l'éolien, même si on a pas mal développé ces dernières années, en particulier en Europe. Mais je crains que ça ne suffise pas. Bon, il y a le nucléaire qui peut convenir, mais alors pas pour les îles, mais pour des continents qui sont équipés de centrales nucléaires. Mais le nucléaire n'est pas une solution non plus idéale, parce qu'on laisse des déchets qui vont embarrasser les générations suivantes, donc nos successeurs, pendant de nombreuses et même des centaines d'années. Moi, je mets un gros espoir dans l'hydrogène, à condition qu'il soit fabriqué par des énergies renouvelables. Donc l'hydrogène, ce qu'on appelle l'hydrogène vert. D'ailleurs, je voulais souligner une petite anecdote. C'est l'auteur du 19e siècle en France, là, Jules Verne, l'avait dit dans un de ses bouquins, dans L'île mystérieuse, que l'hydrogène serait l'énergie propre du futur. Et bien, on y vient finalement, un peu partout dans le monde, en particulier en Europe, on s'organise pour développer une filière hydrogène.
Qui va pouvoir légitimement agir ? Alors, on imagine bien sûr les gouvernants, les élus locaux, les citoyens, les scientifiques, mais qui voyez-vous à la manœuvre ?
Bon, les gouvernements, bien sûr, ils sont en première ligne. Dans le cadre des COP, il y a eu la COP de Paris, la COP 21 en 2015, qui avait été considérée comme un succès parce qu'il y avait 195 pays qui s'étaient mis d'accord pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et puis même 1,5 degré. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une grosse différence entre 2 degrés et 1,5 degré. Par exemple, à 1,5 degré, on a encore des coraux dans la mer. À 2 degrés, il n'y a plus de coraux. C'est la mort de tous les coraux dans tous les océans. Donc, c'est important d'essayer de limiter à 1,5 et même en dessous. Donc, voilà, les gouvernements, mais c'est difficile de mettre d'accord autour d'une table tous les gouvernements, sachant qu'il y a des pays qui sont moins développés que d'autres. Donc, ce n'est pas facile. Par contre, si on dézoome un petit peu, les élus locaux, ils sont aussi en première ligne, les élus locaux en particulier du littoral. Donc c'est à eux aussi à prendre conscience de ça et puis à le faire savoir et puis à légiférer dans ce sens-là. Depuis quelque temps, on voit qu'il y a des actions de climatologues, des scientifiques qui sont déçus et ils sortent des laboratoires parce qu'on dit « bon, maintenant, la pédagogie, ça ne suffit pas. Il faut aller dans la rue pour faire ce qu'on appelle de la désobéissance civile. » Il y a des mouvements comme ça, en particulier en Allemagne, « Scientist Rebellion ». Voilà, les politiques, les scientifiques, les architectes et les urbanistes aussi, ils ont une carte importante à jouer parce que le béton est un gros contributeur au réchauffement climatique. Pour fabriquer du béton et de l'acier, il faut beaucoup de chaleur, donc il y a beaucoup de dégagement de CO2 dans l'atmosphère. Il faut essayer à terme d'abandonner le béton et de revenir à des matériaux de construction plus anciens, comme on avait l'habitude de construire avec de la terre, ce qu'on appelait du pisé, le bois aussi pour les charpentes et puis la paille pour l'isolation par exemple. Et je pense que si on descend encore un petit peu dans la hiérarchie des populations, je pense que les populations, le grand public et en particulier les jeunes, je pense qu'ils ont un rôle à jouer. On a déjà vu des actions qu'il faut saluer. Je pense à l'action d'affichage dans le métro parisien par exemple par un collectif d'étudiants pour un réveil écologique qui ont pris l'initiative de faire afficher dans le métro de la pub en disant pour mettre à la portée de tout le monde le rapport du GIEC. Donc il y avait un QR code, les gens pouvaient flasher le QR code et ils avaient une lecture facile des rapports du GIEC pour bien les sensibiliser. Ces dernières années aussi, on voit qu'il y a des diplômés des grandes écoles qui, lors de la recherche de leur premier emploi, eh bien, ils ne vont pas forcément favoriser le salaire, mais ils regardent également est-ce que leurs futurs employeurs sont une responsabilité sociétale et environnementale. Je pense que c'est important de rassurer la jeunesse parce qu'il y a eu des études récentes, en particulier en Angleterre, dans la revue médicale The Lancet, qui indiquent que, suite à des enquêtes au niveau mondial, que presque 50%, en fait 49% des jeunes de 18 à 30 ans souffriraient d'éco-anxiété climatique. Donc c'est à nous, de la génération un peu moins jeune, un peu plus vieille, comme moi en particulier, de les rassurer en disant « oui, la mer monte, mais il y a des solutions ». Il y a des solutions, mais par contre, ça va être à vous de faire attention et de mettre en œuvre ces solutions.
Est-ce qu'il faut également, en partie, Jean-Marc Benet, faire rêver pour conscientiser? Je m'adresse notamment à vous, parce que vous êtes l'auteur de ce livre « La vie des îles autour du monde, naissance, histoire, présent et futur probable ». Et est-ce qu'il faut redonner le goût de la belle image de l'insularité? Beaucoup de touristes adorent cela. Est-ce qu'il faut donc les faire rêver d'une part pour leur dire « attention, vous risquez de perdre tout ça ».
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Les îles, tout le monde le dit, elles sont en première ligne, sont un peu des sentinelles avancées du réchauffement climatique. Ce qui se passe sur les îles maintenant, c'est ce qui va se passer sur les continents dans 50 ou 100 ans. Donc oui, tout à fait, il faut vraiment préserver les océans parce que si on veut garder les îles et si on veut que les littoraux restent désirables et habitables pour les populations qui vivront au 22e siècle, tout à fait.
Vous évoquiez le béton tout à l'heure. Il faut bien reconnaître aussi qu'un peu à l'instar de l'intérieur des terres où les ruissellements et les inondations proviennent souvent d'un accroissement du béton et du bitume, l'hyperurbanisation des zones exposées au risque et le béton utilisé accroît le problème.
Tout à fait. Plus on imperméabilise des surfaces, l'eau ne s'infiltre plus et elle part directement à la mer, ce qui pose des problèmes aussi à l'agriculture. Il faut aussi noter que si la mer, de toute façon elle va monter, on en est sûr, lorsque la mer sera montée, ce sera élevé de 50 cm ou d'un mètre, tous les réseaux d'assainissement des villes portuaires ne fonctionneraient plus correctement, puisqu'ils ne pourront plus s'évacuer en mer aussi facilement, puisque la mer sera plus haute. C'est pareil pour les fleuves. Surtout s'ils traversent une ville, si la mer est plus haute d'un mètre, lorsque la mer sera plus haute d'un mètre, lors des crues, les fleuves vont déborder, donc provoquant aussi des inondations dans les villes. Donc oui, il faut essayer de faire en sorte que l'eau, le ruissellement, s'infiltre dans le sol avant d'arriver en mer.
Avec aussi cette autre problématique, les deltas, on songe à celui du Nil, on pourrait penser au Gange et à d'autres, mais au Mississippi, se salinisent de plus en plus parce que l'eau de la mer pénètre de plus en plus loin.
Oui, Oui, tout à fait. Les deltas sont aussi très, très vulnérables, et plus que les autres littoraux. Ce que vous dites, tout à fait, la salinisation des terres, mais également les deltas, souvent, c'est vrai aussi bien pour le delta du Nil, ce que je connais mieux à côté de chez moi, c'est la Camargue aussi, qui est un delta donc, entre le Grand Rhône et le Petit Rhône. Il y a aussi ce qu'on appelle de la subsidence, c'est-à-dire que c'est un tassement du sol qui est presque aussi important que l'élévation de la mer. Donc en fait, c'est la double peine. La Camargue, la mer monte de 4 mm, mais elle s'enfonce aussi de l'ordre de 4 mm par an. Donc ça fait 8 mm pour la Camargue. Donc elle va disparaître avant les littoraux voisins de part et d'autre. Et je pense que c'est pareil pour le delta du Nil. C'est pareil, alors je connais moins le Mississippi, mais c'est pareil pour le Gange, c'est le Brahmapoutre aussi, le Bangladesh, dans ces coins-là. Tous les deltas sont des zones marécageuses qui sont encore plus vulnérables que les autres littoraux.
La question évidemment est complexe, mais Jean-Marc Benet, je vous la pose. Anticiper dès à présent, en 2023, ou est-ce qu'il faut attendre 2030-2040, notamment parce que les politiques européennes prévoient la fin du moteur thermique en 2030-2035 et qu'une série de mesures à échéance sont normalement déjà à l'agenda? Est-ce qu'il faut attendre qu'elles aient produit leurs effets pour prendre les bonnes décisions?
Alors c'est vrai qu'on serait tenté d'attendre en disant bon, pour 2050, on est sûr que la mer va monter de l'ordre de ce qu'on l'a dit, hein, de 30 cm. On le sait à plus ou moins 5 cm près, ce qui fait 50 cm depuis les années 70, date à laquelle beaucoup de ports ont été construits. Et on pourrait se dire, attendons, parce que 2100, on ne sait pas. 2100, est-ce que ça sera plus 1 mètre? Est-ce que ça sera plus 2 mètres? On ne sait pas. Et selon que c'est plus 1 mètre ou plus 2 mètres, bien sûr, ce ne sont pas les mêmes. Donc, on pourrait être tenté d'attendre. Mais moi, je ne le conseille pas parce qu'il faut déjà se préparer à 2050. Donc, faisons déjà les travaux pour 2050, parce que là, on est sûr de la cote. Par contre, dans les travaux, dans la conception des travaux, les architectes, les ingénieurs qui vont concevoir ces travaux de surélévation des waterfronts ou bien des ports ou même des littoraux, il faudra prendre en compte que la surcote, elle puisse être réintégrée dans la surélévation des ouvrages pour 2100, même si on ne la connaît pas maintenant, mais qu'il ne faudrait pas qu'on ait à démonter ce qu'on aura fait pour 2050 pour faire quelque chose de plus grand en 2100. Donc il y a quand même un travail de réflexion, de conception qui est très très important.
Avec un investissement, on imagine, colossal.
Ah oui, pour 2050, il y a encore des solutions, que 30 cm, c'est pas grand-chose, je veux dire, on va pas mettre des gros volumes pour surélever des digues, par contre, 2100, on risque de mettre beaucoup plus. Ouais.
Vous êtes aussi à l'origine du projet Occitanil, création d'une île artificielle flottante, est-ce que c'est ça l'avenir?
Oui, je pense que... moi, c'est un projet que j'ai proposé pour l'Occitanie, ce qu'on appelle des plateformes offshore multi-usages. Alors c'est ça l'avenir, je pense, oui, parce qu'il y a, surtout quand on a des contraintes sur les littoraux, on ne peut pas trop paysagère, donc on est tenté d'aller se mettre au large, là où on aura moins d'impact sur les littoraux et sur les riverains qui y vivent. Je crois d'ailleurs qu'en Belgique, vous avez aussi des projets d'énergie renouvelable avec des plateformes flottantes. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps dans la presse. Donc oui, je pense que c'est l'avenir. Simplement, en France, on a des très grosses contraintes sur le plan réglementaire pour les mettre en œuvre. Mon projet à moi, c'est un projet, en fait, c'est surtout destiné à éduquer la jeunesse, à découvrir sur la mer tous les bienfaits que la mer peut apporter. Donc c'est une sorte de parc à thème que les jeunes aillent sur cette île artificielle pour découvrir des projets, par exemple, d'aquaculture pleine mer, des projets aussi d'énergie renouvelable au large avec, je pense, à des systèmes de récupération d'énergie de la houle, montrer que l'assainissement autonome, ça peut fonctionner. Le faire sur le littoral, dans un musée maritime ou dans des aquariums qu'on voit sur le littoral, c'est pas la même ambiance. Je pense que les jeunes, ils ont besoin du rêve, effectivement, d'aller sur la mer pour découvrir tout ça.
Donc, puisque la mer monte et va continuer à monter, agissons vite pour que les littoraux restent habitables pour les générations futures qui connaîtront le 22e siècle. On peut en tout cas l'espérer. Merci de nous en avoir dévoilé à la fois les grands mécanismes et puis les grandes tendances, Jean-Marc Benet.
C'est moi qui vous remercie.